L'Église dans le sens profond, en effet, pour que nous puissions comprendre, mais quelle est vraiment l'utilité de l'Église? Est-ce que c'est quelque chose de fondamental, de vital, de bon, mais pas forcément essentiel? Un pasteur réformé en Alsace a mis un écriteau devant son Église et il a dit ceci: « Tu es venu pour ton baptême, tu es venu pour ton mariage et tu viendras pour tes obsèques. Si tu pouvais venir entre ces trois moments, Dieu t'en serait reconnaissant. » Tout est dit. À partir de là, on comprend bien que qu'est-ce qui motive la fréquentation de nos églises? Vous savez, dans l'Épître aux Corinthiens, déjà à l'époque, l'apôtre Paul disait « Les Juifs veulent des miracles et les Grecs veulent la sagesse. » Et aujourd'hui encore, les pasteurs doivent être des animateurs et trouver toutes sortes de formes, de situations, d'organisation pour que les gens se sentent bien dans l'Église. Et puis, si le pasteur dit des choses qui sont trop moralisantes, les gens ne viennent plus parce qu'ils se disent « si je viens pour le dimanche matin entendre encore qu'on me fasse la morale, c'est bon. » Et puis, si c'est trop ceci et si c'est trop cela. Et puis, peut-être que les hommes de Dieu, les bergers, en perdent un peu le nord. Mais la question que moi j'aimerais aborder avec vous, c'est celle-ci: mais le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi a-t-il voulu l'Église? Et vous savez, c'est au IIIe siècle qu'un évêque nommé Cyprien donne cette citation: « Hors de l'Église, point de salut ». Et vous aviez un autre théologien d'Alexandrie, Origène, qui lui disait à quelque chose près la même chose, avec quelques nuances. Il disait « Que personne donc ne s'illusionne, que personne ne se trompe lui-même, hors de cette demeure, c'est-à-dire l'Église, personne n'est sauvé. Celui qui en sort est lui-même responsable de sa mort. » J'avoue que cette déclaration donne un sens fort à l'Église. Parce que si nous allions dans ce sens, cela signifierait que tu ne veux pas venir à l'Église, tu veux quitter l'Église, alors sache que tu perdras ton salut avec. Je pense que ça mettrait un ton fort aux uns et aux autres. J'ai souvenir, ici à Algrange, avec les étudiants, on voyait souvent les témoins de Jéhovah distribués, avoir leur stand. Ils étaient fidèles, vraiment fidèles. Et nous, les étudiants, on avait un peu honte parce que on évangélisait, mais vraiment, on n'était pas aussi assidus que eux. Eux, c'était une horloge suisse. Ils étaient là à l'heure précise et tout le temps fidèlement et tout. Et je me souviens d'avoir dit un jour à un ami étudiant, je lui ai dit, écoute, tu te rends compte, c'est la honte pour nous, quoi. Je veux dire, t'as vu comme ils sont zélés et nous, on est là, Et alors, lui m'a dit, oui, mais bon, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur salut. Eux, ils jouent leur salut, là. Nous, on est déjà sauvés. Je comprends la réflexion. Mais est-ce qu'on regarderait l'Église de la même manière? Je suis sauvé, donc si je vais à l'Église, ce n'est pas ça qui va remettre en cause mon salut. Et est-ce que ça nous rend, dans ce cas, négligents? Est-ce que ça nous rend moins zélés pour Dieu? Est-ce que ça nous rend donc, du coup, des personnes qui ne sont pas fidèles et rigoureuses et persévérantes dans leur foi et dans ce qu'elles doivent vivre? Le dernier concile de l'Église catholique, qui a eu lieu en 1964, Vatican II, n'a pas mis aux oubliettes les déclarations de Cyprien et d'Origène. Eux aussi, dans Lumen Gentium, ils ont noté ceci: « Cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'il a sauré fonder de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. » Donc on a bien compris que la déclaration de l'Église catholique, elle est très riche en ce qui concerne l'Église. Cyprien, encore une fois, dira, Personne ne peut avoir Dieu pour Père s'il n'a pas l'Église pour Mère. Et le schéma que l'on pourrait établir est le suivant. Dans la conception catholique, je ne cherche pas à faire un cours sur le catholicisme, mais c'est juste pour faire une comparaison avec nous. C'est la suivante. Christ, l'Église et l'individu. C'est-à-dire que l'individu, pour atteindre Jésus-Christ, il doit passer par l'Église. C'est l'Église qui lui fait le pont avec Christ. Donc, vous avez ce schéma, Christ, Église, individu. Donc, pour les catholiques, l'Église visible existe d'abord. Ensuite vient l'Église invisible, celle qu'on voit. L'institution, l'Église institution, existe avant l'Église invisible, c'est-à-dire la notion spirituelle. La foi qui sauve s'obtient de, par et dans l'Église. Sans l'Église, tu n'atteindras pas le salut. L'Église devient la mère qui va engendrer ses propres enfants. L'individu accède au Christ au travers de l'Église. L'Église devient donc médiatrice de salut. Vous connaissez ce verset dans Timothée qui dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Alors si vous dites cette déclaration à des catholiques, ils ont une réponse à vous donner. Je n'aborderai pas ce sujet théologique, mais c'est ce qu'ils appellent le mysticis corporis. C'est une articulation pour dire que l'Église est la plénitude du Christ sur terre. L'Église distribue la grâce et devient donc le moyen de salut. Et ce sont les sacrements, comme le baptême ou l'Eucharistie, qui constituent l'Église. Vu de ce point de vue, sur cet angle, l'Église, c'est important. Il faut le reconnaître. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'ils affirment, mais il y a une chose que je note. L'Église, pour un catholique, c'est important. Et c'est très important pour le catholique, puisque son salut en dépend. Alors la différence essentielle entre les catholiques et les protestants, vous l'avez compris, elle se situe au niveau ecclésiologique, c'est-à-dire sur la doctrine de l'Église, sur la compréhension de l'Église. Alors peut-être vous vous dites, mais non, c'est le salut. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un catholique, le salut et l'Église, c'est imbriqué. Il faut passer par l'Église pour avoir le salut. Donc, il y a ici quelques étudiants à Lagrange ou quelques professeurs à Lagrange, ils entendront, c'est l'ecclésiologie qui va faire naître la sotériologie. Là où nous, peut-être, on va dire, pas peut-être, même sûr, on va dire l'inverse. Donc, vous avez retenu le schéma Christ, individu, Église. Ce schéma-là donne beaucoup de richesse à l'Église, l'enrichit et lui donne beaucoup d'importance. Mais quel est notre schéma à nous? Qu'est-ce que nous, on croit? Nous croyons à un autre schéma, bien évidemment. Nous ne croyons pas au schéma qui dit Christ, Église, individu. Nous disons Christ, individu, Église. Donc je le répète pour perdre personne. Nous ne disons pas Christ, Église, individu. Nous disons Christ, individu, Église. L'Église vient après. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à quiconque croit puisse être sauvé. Donc la personne qui croit en Christ est sauvée et seulement ensuite vit l'Église. Donc pour les protestants, pour les évangéliques, l'Église invisible, cette fois-ci, existe d'abord, puis vient ensuite l'Église visible. D'accord? C'est au travers d'une foi personnelle que nous sommes sauvés. L'Église est notre mère en ce qu'elle nous nourrit et nous enseigne. C'était la position de Calvin. Donc lui, il disait que l'Église était notre mère, comme les catholiques, mais À la différence, c'est que chez les catholiques, l'Église catholique, elle était une mère qui engendrait, alors que chez Calvin, l'Église n'était pas une mère qui engendrait, elle était une mère qui nourrissait, d'accord, et qui entretenait l'enfant qui a été, lui, créé, né par l'Esprit de Dieu. En l'occurrence, c'est ce que nous croyons. Christ entre en relation avec l'individu par sa parole, la Bible. Souvenez-vous de ce verset, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Voilà ce que nous croyons. L'Église ne produit pas le salut, mais le cultive et le développe. C'est l'Église. L'Église est le fruit du salut d'individus assemblés en communauté. Alors la critique que nous font les théologiens catholiques, et peut-être à juste titre, et c'est là où je voudrais vous sensibiliser, est de dire que le schéma Christ, individu, Église est trop individualiste. Il est beaucoup trop individualiste. L'homme devient chrétien indépendamment de l'Église, il entend l'Évangile, l'Esprit de Dieu le convainc au travers de la parole, et seulement dans un deuxième mouvement, les chrétiens découvrent qu'ils ont vécu la même expérience, et alors forment ou pas un rassemblement qu'ils nomment Église. Et là, ils nous pointent du doigt et disent « Mais c'est pauvre, l'Église chez vous, c'est pauvre, parce que chez nous, c'est riche, parce que nous, il y a le salut, l'Église nous donne le salut, mais vous, l'Église, c'est pauvre, c'est le fruit d'un rassemblement qui peut se faire ou qui ne se fait pas. » Est-ce que pour rejeter le schéma où nous sommes pleinement d'accord, il est faux, ce schéma catholique est faux. Mais pour rejeter le schéma et l'accusation de l'individualisme, est-ce qu'on est obligé d'adopter le schéma catholique alors? Certainement pas. Mais l'individualisme, mes amis, écoutez-le bien, n'est pas biblique. Et c'est là qu'on doit réfléchir. Et nous poser des questions, avoir l'honnêteté de dire l'index qui est pointé sur nous montre une erreur. Ils n'ont peut-être pas la vérité, mais ils pointent aussi quelque chose sur nous, et nous devons aussi considérer quelle est alors la place de l'Église. Avons-nous appauvri l'Église? Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Nous sommes des baptistes, n'est-ce pas? Et pour nous, le baptême, c'est important. Mais pourquoi doit-on se baptiser? Alors j'entends souvent à cette réponse, le Seigneur me l'a demandé, je le fais. C'est un témoignage aussi, c'est un témoignage. Oui. C'est une ordonnance, certains aiment le mot ordonnance. Très bien. Quoi d'autre? Et là, là, on commence à tourner. On dit, je sais pas moi, j'obéis, point. On aime... Acceptation? Vas-y, vas-y. Acceptation de... Oui, je comprends ce que tu veux dire. L'illustration de quelque chose qu'on a déjà vécu au préalable. L'illustration, d'accord. Oui, on va dire que c'est une décision, bien que la décision elle est déjà faite avant, hein. C'est une illustration. Mais vous voyez, on est en train de chercher nos mots. Je donne un autre exemple. Le repas du Seigneur. Chez un catholique, c'est le corps du Christ que tu es en train de manger là. Il ne faut pas le laisser tomber. Tu te rends compte, tu viens de faire tomber le corps du Christ. Et puis quand le corps du Christ, on n'a pas fini de manger toutes les hosties, on ne va pas les mettre à la poubelle. Chez nous, les enfants, quand on a fini la scène, ils vont manger ça comme des chips, et ils vont finir les gobelets de jus de raisin, et puis voilà à quel niveau on en est. Mais le catholique, il va mettre ça dans un ciboire, il va mettre ça dans un petit coffret qu'il appelle le tabernacle, et il va allumer la petite lumière pour dire « le Christ est présent ». Il rigole pas, lui, avec ça. Mais nous, comment nous approchons-nous du repas du Seigneur? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais je vais juste vous dire une chose, et ça va déjà donner un peu le ton. Sachez, mes amis, que certaines personnes, pour avoir pris ce simple bout de pain, qui n'est qu'un bout de pain, qu'on soit bien clair entre nous, le pain est du pain, il reste du pain. Le fruit de la vigne, alors vous mettez du jus de raisin ou du vin, on ne va pas rentrer dans ce débat, ça reste ce que c'est, ça ne change pas. Mais toujours est-il, il s'avère que la Bible nous dit que certains, pour l'avoir pris indignement, ils en sont tombés malades et d'autres en sont même morts. Alors, c'est pauvre ou c'est riche, ces gestes? C'est la réflexion que j'aimerais mener avec vous. Beaucoup de chrétiens pensent que le service, la fréquentation ou l'appartenance à une église locale n'est pas quelque chose de primordial. C'est bien, mais ce n'est pas fondamental. Je m'édifie chez moi avec ma Bible. J'écoute des enseignements sur le web. Je vis des cultes au travers de mon écran. J'adore Dieu dans sa nature. Je vais citer un verset qui est dans Hébreux 10, verset 25. Je ne voudrais pas trop le sortir de son contexte, puisqu'il y a un contexte qu'il faut respecter. Mais toutefois, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Déjà, dans l'Église primitive, il y avait des croyants qui ne voulaient pas considérer et ne voyaient pas l'importance de l'Église. Alors, hors de l'Église, point de salut? Non. L'Église ne nous sauve pas. Mais notre salut, mes amis, ne se dissocie pas de l'Église non plus. Et c'est le mal, il me semble, que j'observe dans mon troupeau que le Seigneur m'a confié et que je vois dans d'autres, c'est que nous sommes dans une génération où on veut absolument tout dissocier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au même titre que l'amour ne se dissocie pas de la vérité. Tu dois dire la vérité en tant que pasteur, Luciano. Alors tu dis la vérité. Ah oui, mais là, tu ne l'as pas dit avec amour. Ah, bon. Mais je me rends compte que quand je le dis, la vérité et, la vérité et l'amour, c'est quand même quelque chose qui se conjugue très, très difficilement. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Il m'est arrivé de dire à une sœur, je peux dire ce que je veux ici, je ne suis pas dans mon troupeau, donc j'en profite, mais... Je suis dans le parking, je passe, je vois une sœur qui, on va dire que, elle est habillée pour des temps quand il fait beau, quoi. Il n'y a pas beaucoup de tissu. Je me suis dit, je vous confesse, je me suis dit dans mon cœur, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Tu continues ton chemin, Luciano, tu n'as rien vu. Et quand je fais les pas, ma conscience commence à appuyer. Comment ça, tu n'as rien vu? Tu es le pasteur de cette église et toi, tu ne vois rien? Vous voyez, cette forme de schizophrénie, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Je dis, ah, c'est pas. Non, mais Seigneur, je ne veux pas d'histoire. Je n'ai pas envie, là, aujourd'hui. Non, franchement, début de semaine, tout de suite, comme ça. Là, alors, je fais demi-tour. Je vous assure, je sors toute la pommade, tout ce qu'il faut, le miel, enfin, les mots, le ton, tout ce que vous voulez. Je me dis, là, tu vas te prendre une rafale. Et je dis, écoute. Vraiment, tu le prends pas mal. Et je suis pas. Presque, je suis déjà en train de me justifier moi-même. Je n'ai pas de pensée mauvaise, hein. C'est pas. Mais je pense et que ce serait bien si tu pouvais t'habiller un peu autrement. Et à ma grande surprise, cette jeune femme m'a dit, mais est-ce qu'on peut discuter parce que... Et elle, on a eu l'occasion de parler et elle avait un problème qui faisait qu'elle était comme ça. Donc merci Seigneur. Ça, c'est les belles histoires, vous savez. Nous avions un frère à l'église qui prêchait mal, vraiment. Il prêchait sur la nature, sur les oiseaux, sur... C'était sympathique, mais ce n'est pas la Bible qui prêchait. Et notre conseil a pris la décision de dire non, stop. Stop. Tout le monde était d'accord, unanime. Luciano, tu vas dire à ce frère qu'il faut qu'il arrête. Je dis, moi ? Ça fait 10 ans qu'il prêche ce frère et c'est moi qui vais lui dire ça ? Et je vous assure, vous voyez, l'amour et la vérité, j'aurais vraiment aimé le dissocier. Non, il faut le garder ensemble, pardon. On veut les dissocier, mais c'est... Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, à reculons. Alors, le Seigneur m'a fait une grâce, là, parce que ce frère, un jour, est venu me voir, il m'a dit, Luciano, écoute, franchement, c'est bien de donner la place aux jeunes. Et puis, moi, j'ai dit, bah, écoute, tu as raison, c'est très sage de ta part. Voilà, donc, merci, Seigneur. Mais c'est pas toujours comme ça que les choses se passent. Donc, vous voyez, on veut... Le problème, c'est qu'on veut dissocier l'amour de la vérité, la foi des œuvres. Souvenez-vous ce que disait Jacques. Mais quelqu'un dira, cet objecteur, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » Comment ça ? La foi et les œuvres, ça ne se sépare pas. Si tu as la foi, tu as les œuvres. Ça fait partie. C'est comme si je disais, « Écoute, toi tu as le poumon, moi j'ai l'intestin, et puis lui il a... » Non, tu vis pas. C'est un tout. On veut dissocier, mes amis, la conversion de la repentance. Et on entend comme ça des gens, « Mais moi je suis sauvé. » Mais quand tu peux me le raconter, ton témoignage ?« Ah, mais tu sais, je me promenais, puis à un moment j'ai eu une chaleur. Ça a commencé par la jambe droite, et c'est monté jusqu'en haut, et c'est redescendu par la jambe gauche. » Et là, vraiment, j'ai senti l'amour de Dieu, tu vois. Mais, vous savez, on en rigole. On en rigole, mais... Je vous assure, quel est l'évangile qu'on annonce ? Notre salut, mes amis, ne se dissocie pas de l'Église, au même titre des choses que je viens de vous dire. Et pourquoi ? Pourquoi il ne se dissocie pas ? Parce que tout d'abord, Christ est mort pour l'Église, son peuple. Voilà la première affirmation. Et ça, c'est un argument de poids. L'Église, en aucun cas, ne peut être considérée comme un appendice ou une option non indispensable. Plusieurs textes de l'Écriture nous affirment que Christ est mort aussi pour se constituer un peuple, c'est-à-dire l'Église. Et deux vérités se conjuguent maintenant. Christ, par son expiation, forme un peuple qui lui soit fidèle. Christ, par son sang, rachète plus qu'un individu. Il rachète l'Église. Christ est mort pour l'Église. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son sang précieux. Il ne s'agit pas de l'Église invisible, comme j'ai pu l'entendre. Oui, mais ça, parce qu'on veut dissocier aussi l'Église visible de l'Église invisible. C'est une erreur. D'ailleurs, la Bible, vous ne voyez pas cette réalité-là, cette dissociation. Quand on parle de l'Église, c'est l'Église. Christ est mort pour l'Église. Comment provoquer cette déclaration dans vos esprits ? Et si je vous disais, Christ n'est pas mort pour toi ? Christ n'est pas mort pour toi. Il est mort pour l'Église. Est-ce que ça vous fait réfléchir, ça ? Quand je vous dis que Christ n'est pas mort pour toi en tant qu'individu, il est mort pour un ensemble d'individus qui forment l'Église. On aime dire dans les mariages ce fameux verset aux hommes, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. » Et donc, on veut juste en train déjà, pour un homme s'engager à un mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en plus, il fait l'acte de sa vie. Hein, il aurait sauté d'un immeuble, ça aurait été pareil. Et là, on est en train de lui dire, mais tu vois, comme Christ. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Christ est mort pour l'Église. Et dans Acte 20, verset 28, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il précise, il s'adresse aux bergers, il s'adresse à ceux qui vont paître le troupeau. C'est un encouragement pour eux. Et il est en train de dire, Christ est mort pour l'Église. Vous connaissez aussi ce fameux passage où Pierre, Jésus lui demande à plusieurs fois, « M'aimes-tu, Pierre ?» Et alors, on aime aborder ce verset en disant, « Oui, mais le Seigneur remet en cause l'amour de Pierre, puisqu'il utilise plusieurs mots en grec. » Mais mettons ça de côté, je crois que le Seigneur est en train de dire à Pierre, « Occupe-toi de mon Église. » Et pour t'occuper de mon Église, il faut beaucoup d'amour envers moi. Aux yeux de notre Sauveur, son Église a de l'importance. Christ forme un peuple qui lui soit fidèle. Tite 2, 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Vous vous rendez compte ? Dans Jean 11, verset 50, il est dit, « Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang pour former un peuple qui lui soit fidèle. La mort de Christ a une signification plus grande encore que le salut d'un individu. Hors de l'Église, point de salut, c'est faux. Mais on ne dissocie pas le salut de l'Église et l'Église du salut. Pourquoi ? Parce que Christ est mort pour l'Église, mais aussi parce que Christ fait croître ses enfants au travers de l'Église. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et combien de fois, mes amis, vous et moi, nous avons la vie éternelle, mais avons-nous l'abondance de cette vie ? La meilleure évangélisation que nous pourrions faire autour de nous, c'est de donner envie aux gens qui sont autour de nous. Et il y a des chrétiens, mais franchement, ça ne donne pas envie. Si c'est ça être chrétien, moi j'en veux pas. Il y a des gens du monde qui vivent mieux que ça. Et c'est triste, c'est une réalité qui existe. Elle existait déjà dans le Nouveau Testament. Et vous le voyez quand l'apôtre Paul aux Corinthiens, il dit, on entend parmi vous des choses tellement sales qu'on n'entend même pas, on voit même pas ça dans le monde. 1 Corinthiens 5. Vous vous rendez compte comment cela peut être déshonorant? L'Église ne communique pas le salut en ce qu'elle serait médiatrice de celui-ci, mais elle en établit l'écosystème pour le développement de nos âmes. Christ a établi un écosystème, quelque chose qui est ce qu'il y a de meilleur pour ton âme, pour qu'elle puisse grandir. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps du Christ. L'édification du corps de Christ. Et la suite du verset en dit long sur qui tire son accroissement en Christ. Oui, c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Franchement, je me suis dit plusieurs fois dans mon cœur, Seigneur, t'as mal fait les choses. Vous savez, on m'a souvent dit, pourquoi les femmes ne sont pas pasteurs ? Elles prêchent des fois mieux que les hommes. Je dis oui, c'est vrai. Mais Dieu l'a fait ainsi. C'est tout. Et est-ce que moi, je vais dire à Dieu ce qui doit se faire ? Dieu a fait l'Église. Et c'est l'écosystème qu'il a choisi. Et toi, tu as mieux que ce que Dieu te donne ? C'est ça la réalité ? Réfléchis. La parole de Dieu semble dire que l'unité dans la pluralité de l'Église est gage de puissance. L'unité dans la pluralité est gage de puissance. Quand une Église est unie, elle marche, comme je prends l'expression du livre des Actes, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, il y a puissance, il y a force de l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui nous unit plus que le fait de fermer les yeux ensemble, de centrer nos pensées sur Dieu et de persévérer dans la prière, que de nous réunir et sonder la parole de Dieu et de l'étudier avec assiduité pour l'incarner, que de nous efforcer à vivre ensemble nos dons pour l'utilité commune, que de partager régulièrement le repas institué par Dieu pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, pour examiner nos consciences et pour nous engager à changer de vie encore et toujours, afin de marcher de progrès en progrès à la gloire de Dieu. Voilà l'Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, acte 2, versets 41 et 42. Le mot « persévérer », c'est un mot détestable, n'est-ce pas ? Persévérer, c'est détestable. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout, tout de suite, maintenant. Et c'est d'autant plus vrai pour les choses spirituelles. On veut tout, tout de suite. L'Église de Dieu n'est pas dissociable du salut qu'il t'a donné. Pourquoi supporter un frère, supporter une sœur, supporter le pasteur ? Christ institua l'Église pour l'abondance de la vie. Voici ce qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme une huile, la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien sûr, c'est un texte de l'Ancien Testament, il n'est pas directement identifié à l'Église, mais déjà là, la fraternité était quelque chose de bon. D'autant plus aujourd'hui. Nous sommes des êtres ayant besoin de vis-à-vis. L'homme a été créé dès le départ en ayant un vis-à-vis. Nous sommes des êtres sociaux, créés pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour être individualiste. On n'est pas fait pour être seul. Cela signifie que l'existence des rachetés aura elle aussi une dimension sociale. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'Église fait partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. L'Église, qui a une notion sociale, est tout à fait adaptée à l'humanité qui a été créée pour vivre cette réalité-là. L'Église n'est ni une option, ni un éventuel bienfait, encore moins un accident. L'Église est pleinement dans le plan de Dieu, et que tu le veuilles ou non, il a plu à Dieu de nous faire croître au travers de l'Église. Alors, on ne peut dissocier notre salut de l'Église. Parce que Christ est mort pour cette Église. Parce que Christ a décidé de nous faire croître spirituellement au sein de cette Église. Et parce qu'il confie des mandats exclusifs à cette Église, qu'il ne confie pas à des individus. Quels sont les mandats de l'Église? Souvent, les Églises ne savent pas quels sont leurs mandats. Que doivent-elles faire? Est-ce qu'elles doivent avoir un bon groupe de jeunes? Est-ce qu'elles doivent avoir une bonne fête de Noël? Est-ce qu'elles doivent avoir de bonnes agapes? On mange bien. Sylvie, elle fait de bonnes pâtes. Tout le monde mange bien. C'est super. Est-ce que c'est la mission de l'Église? Vous savez, mon groupe de jeunes à l'Église, un jour, m'a dit, on a un projet, on voudrait parler au pasteur, on a un projet, voilà, on voudrait aller sur Paris, et puis on voudrait visiter une église pour voir d'autres frères et tout, et après on irait à Euro Disney. Là, ça sent juste que vous voulez aller à Euro Disney et que vous savez très bien que ça ne passera pas comme ça. Et donc, vous voulez juste christianiser la chose. Comme ça, Luciano, s'il entend « Ah oui, mais on passe quand même à l'église. Allez !» J'ai dit « Hors de question. » L'église n'est pas là pour faire des événementiels. Point. J'ai dit « Non. » Non, non, non. Quels sont les mandats de l'église? Alors, je vous donne les 4G, hein, c'est pas la connexion internet, hein, c'est les 4G que vous pouvez retenir. Et ces mandats-là, Jésus-Christ les a confiés exclusivement à l'Église, à personne d'autre. Vous savez, on a des œuvres para-ecclésiales. Dieu n'a pas confié ces mandats-là aux œuvres para-ecclésiales. Là aussi, on pourrait en dire long. Sur ces œuvres qui sont autour de l'Église, qui devraient être soumises à l'Église et non pas l'inverse. Je ferme la parenthèse. Premier G. Glorifier le Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 31. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et si vous lisez le verset d'après, vous voyez qu'il y a un lien direct avec l'Église. Ou Éphésiens 1, 5 et 6, et bien d'autres. Premier, j'ai glorifié le Seigneur. Deuxième, j'ai gagné des âmes. C'est la mission de l'Église. Nous sommes l'Église présente pour gagner des âmes. Que chose soit claire, qu'il n'y ait pas tromperie sur marchandise. Des fois, nous faisons des évangélisations, franchement, c'est limite malhonnête. Bricolage, patchwork, ou je sais pas quoi, des groupes de dames, atelier cuisine, et en plein milieu, poum, on sort une Bible, Christ est mort pour toi. Pourquoi on n'annonce pas la couleur? N'ayons pas peur, c'est notre mandat. Oui, moi je suis là pour te parler de Jésus. Ben, ça ne m'intéresse pas, oui, mais si tu m'écoutes, je te parlerai de Jésus. Voilà. On est là pour ça. Deuxième G, gagner des âmes. Troisième, grandir dans notre relation avec notre Seigneur. Vous connaissez Jésus-Christ? Eh bien, il veut vous connaître. Tu peux le connaître encore et encore et encore dans ta relation. Quatrième G, et oui, garder la saine doctrine. L'Église doit être garante de la saine doctrine. 1 Timothée 3, 15, Jude 1, 3. Voyez ces 4 G, c'est les mandats que l'Église nous demande. Il n'y en a pas d'autres. Restez dans ce cadre. Je les répète, glorifier le Seigneur, gagner des âmes, grandir dans notre relation avec Dieu et garder la saine doctrine. Maintenant, prenons un de ces mandats, gagner des âmes par exemple. Que vous le vouliez ou pas, nous, l'Église, nous sommes le seul témoignage. Écoutez bien, l'Église est le seul témoignage incarné de l'Évangile sur terre. Personne ne parle de l'Évangile à part nous. Alors, vous me rétorquerez certainement, mais il y a la Bible.
Vous ajouterez aussi qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Vous me direz que la splendeur de la nature témoigne du Créateur. Vous me rappellerez que la pensée de l'éternité habite dans tout homme. Vous insisterez sur la connaissance du bien et du mal qui est dans le cœur de chaque être humain. Oui. Mais toutes ces vérités fondamentales démontrent combien elles ne sont pas incarnées. Nous sommes le seul témoignage sur terre incarné de l'Évangile. Et c'est pour cela que nous entendons ce verset qui dit « Vous, alors écoutez bien, pas au singulier, pas d'individualisme, c'est bien un pluriel. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le seul témoignage incarné que Dieu a laissé sur terre. Il n'y en a pas d'autre. Et pas dans le sens individuel. Alors, vous l'avez compris, pour ma part, c'est très important de ne pas dissocier notre salut. Alors quand on a cette affirmation « hors de l'Église, point de salut », j'ai envie de dire « oui, dans le sens où notre vie d'Église ne se dissocie jamais de notre salut ». Mais ce n'est pas notre vie d'Église qui produit le salut. Alors, vivons l'Église, ne désertons pas l'Église. Soyons zélés pour cette Église pour qui le Seigneur a donné son sang. Augustin a dit de l'Église visible ceci. Il y a beaucoup de brebis hors de l'Église et beaucoup de loups dedans. J'espère avoir pu sensibiliser un petit peu votre cœur par rapport à ce qu'est l'Église. Nous continuerons demain, et demain après-midi et lundi. Amen.